Paul examinait Idaho et retrouvait ses mouvements félins, cette rapidité des réflexes qui faisait de lui un maître d'armes bien difficile à égaler. Le visage rond et sombre d'Idaho se tourna vers lui à cet instant. Les yeux habitués aux profondeurs des cavernes ne parurent pas le reconnaître, mais Paul reconnut ce masque de sérénité qu'il connaissait bien et qui recouvrait l'excitation intérieure de l'homme. Puis le regard d'Idaho se porta sur l'assemblée et il déclara « Nous avons surpris un parti de mercenaires Harkonnen déguisés en Fremen. Ce sont les Fremen eux-mêmes qui nous ont dépêché un courrier pour nous avertir du subterfuge. Au cours de l'attaque cependant, nous avons découvert que les Harkonnen avaient retrouvé le courrier Fremen et qu'ils l'avaient gravement blessé. Il est mort alors que nous l'amenions ici pour que nos médics le soignent. Quand j'ai vu qu'il était au plus mal, je me suis arrêté pour faire ce que je pouvais. À cet instant, il a tenté de se débarrasser de quelque chose. » Idaho regarda le duc. « C'était un couteau, monseigneur. Un couteau dont vous n'avez jamais vu le pareil. » « Un Chris ?» demanda quelqu'un. « Sans aucun doute, » reprit Idaho. « Il est d'une blancheur de lait et il semble briller d'une lueur propre. » Il plongea la main dans sa tunique et brandit une gaine d'où sortait une poignée striée de noir. « Laissez cette lame dans son fourreau !» L'injonction s'était élevée du seuil, à l'autre extrémité de la salle. La voix était vibrante, pénétrante, et tous levèrent la tête et regardèrent. Une haute silhouette en robe se tenait sur le seuil, derrière les épées croisées des gardes. La robe était de cuir fin et elle enveloppait complètement l'homme. Seuls ses yeux étaient visibles derrière un voile noir. Des yeux complètement bleu. Laissez-le entrer, murmura Idaho. Qu'on laisse passer cet homme, dit le duc. Les gardes hésitèrent, puis abaissèrent leurs épées. L'homme s'avança dans la salle et s'arrêta devant le duc. C'est Stilgar, le chef du siège que j'ai visité, expliqua Idaho. Il commandait ceux qui nous ont avertis. Bienvenue, dit Leto. Pourquoi ne devrions-nous pas sortir cette lame de son fourreau? Le regard de Stilgar était fixé sur Idaho. Vous observez parmi nous les coutumes d'honneur et de pureté. Je vous permettrai de voir la lame de l'homme auquel vous avez montré de l'amitié. Les yeux bleus examinèrent toute l'assemblée. Mais je ne connais pas ces autres hommes. Leur permettriez-vous de souiller une lame honorable? « Je suis le duc Leto, » dit le duc. « M'autorisez-vous à voir la lame ?»« Je vous autorise à gagner le droit de la sortir de son fourreau, » dit Stilgar. Et comme un murmure de protestation se faisait entendre, il leva une main fine marquée de veines sombres et ajouta « Je vous rappelle que cette lame était à celui qui vous montra de l'amitié. » Dans le silence revenu, Paul étudia l'homme et perçut l'aura de puissance qui émanait de lui. C'était un chef Fremen. Un homme qui se trouvait en face de Paul, de l'autre côté de la table, murmura « Qui est-il pour nous dire quels sont nos droits sur Arrakis ?»« Il est dit que le duc Leto gouverne avec le consentement des gouvernés, » lança le Fremen. « Ainsi donc je dois vous dire ce qu'il en est. » Une certaine responsabilité incombe à qui voit un Chris. Il décocha un regard sombre à Idaho. Les Chris sont nôtres. Ils ne peuvent quitter Arrakis sans notre consentement. Alec et plusieurs autres hommes firent mine de se lever, l'air furieux. C'est le duc Leto qui seul décide si... commença Alec. Un moment, je vous prie. Le duc venait d'intervenir et la douceur de sa voix les retint. « La situation ne doit pas m'échapper, » se dit-il. Puis il s'adressa au Fremen. « Monsieur, j'honore et respecte la dignité de tout homme qui respecte la mienne. J'ai bien sûr une dette envers vous. Et je paie toujours mes dettes. Si votre coutume veut que ce couteau reste dans son fourreau, j'ordonnerai moi-même qu'il en soit ainsi. Et s'il est quelque autre manière d'honorer l'homme qui est mort à notre service, vous n'avez qu'à la nommer. » Le Fremen regarda le duc, puis lentement repoussa son voile, révélant son visage au nez fin, aux lèvres pleines dans une barbe d'un noir brillant. Délibérément, il se pencha vers la surface polie de la table et cracha. À l'instant où tous les hommes présents se dressaient d'un bond, la voix d'Idaho lança « Arrêtez !» Et dans le silence tendu, il reprit. « Nous te remercions, Stilgar, de nous faire le présent de l'humidité de ton corps, et nous l'acceptons avec l'esprit dans lequel il fut offert. » Et Idaho cracha sur la table devant le duc. Il ajouta à l'intention de ce dernier « Rappelez-vous à quel point l'eau est précieuse ici, sire. » C'était là un gage de respect. Leto se renfonça dans son siège et surprit le regard de son fils, le sourire triste sur son visage, avant de percevoir la détente tout autour de lui, tandis que les hommes comprenaient. Le Fremen regarda Idaho. « Tu t'es bien défendu dans mon siège, Duncan Idaho. Es-tu lié par l'allégeance à ton duc ?»« Il me demande de me mettre à son service, sire, » dit Idaho. « Accepterait-il une double allégeance ?» demanda le duc. « Vous désirez que j'aille avec lui, sire ?»«
Je désire que tu prennes ta propre décision, » reprit le duc,
et il ne parvint pas à dissimuler la tension qui habitait sa voix. Idaho dévisagea le Fremen. « M'accepterais-tu dans ces conditions, Stilgar ? À certains moments, il me faudra revenir pour servir mon duc. »
« Tu as bien combattu et tu as fait de ton mieux pour notre ami, » dit Stilgar.
Il regarda Leto. « Qu'il en soit ainsi. L'homme Idaho garde le couteau Chris qu'il tient comme signe de son allégeance envers nous. Il doit être purifié, bien sûr, et les rites doivent être observés. Mais ceci peut être fait. Il sera Fremen et soldat des Atreides. Il y a un précédent à cela. Liet sert deux maîtres.
« Duncan ?» demanda Leto.
« Je comprends, sire. »
« Alors c'est d'accord. »«
Ton eau est nôtre, Duncan Idaho, » dit Stilgar. « Le corps de notre ami reste auprès de ton duc. Son eau est l'eau des Atreides. C'est le lien entre nous. »
Leto soupira, regarda Hawat, cherchant les yeux anciens du Mentat. Hawat acquiesça avec une expression de satisfaction.
« J'attendrai en bas, » reprit Stilgar, « tandis qu'Idaho dira adieu à ses amis. Turok était le nom de notre ami mort. Souvenez-vous-en quand viendra le moment de libérer son esprit. Vous êtes amis de Turok. »
Et il se détourna pour quitter la salle.
« Ne resterez-vous pas un instant ?» demanda Leto.
Le Fremen le regarda, ramena le voile devant son visage d'un geste désinvolte, et mit quelque chose en place. Paul entrevit une sorte de tube très fin avant que le voile retombe.
« Y a-t-il une raison pour que je demeure ?» demanda Stilgar.
« Nous serions honorés. »«
L'honneur exige que je sois ailleurs avant peu, » répondit le Fremen.
Il décocha un regard à Idaho, puis franchit le seuil entre les gardes.
« Si les autres Fremen lui ressemblent, « notre accord sera bénéfique, » déclara le duc.
« Il constitue un bon échantillon, sire, » dit Idaho d'une voix sèche.
« Tu comprends ce que tu t'apprêtes à faire, Duncan ?»«
Je suis votre ambassadeur auprès des Fremen, sire. » »«
Il dépendra beaucoup de toi, Duncan. Nous allons avoir besoin d'au moins 5 bataillons de ces gens avant l'arrivée des Sardaukar. »
Pour cela, il faudra du travail, sire. Les Fremen sont plutôt indépendants. »
Idaho hésita, puis poursuivit.
Autre chose, sire. L'un des mercenaires que nous avons abattus essayait de prendre cette lame à notre ami Fremen mort. Il nous a dit que les Harkonnen offraient 1 million de Solaris au premier homme qui leur apporterait un couteau Chris.
Leto se redressa, surpris.
Pourquoi donc désirerait-il à ce point une de ces lames?
Le couteau est fait dans une dent de verre des sables. C'est l'emblème des Fremen, sire. Avec lui,
Un homme aux yeux bleus peut pénétrer dans n'importe quel siège. Il m'arrêterait si je n'étais connu. Je n'ai pas l'air d'un Fremen, mais...
Peter de Vries, dit le duc.
Un homme d'une ruse diabolique, monseigneur, dit Hawat.
Idaho glissa l'arme dans son fourreau sous sa tunique.
Garde ce couteau, dit le duc.
Je sais, monseigneur. Idaho tapota sur le transmetteur placé dans sa ceinture. Je vous contacterai dès que possible. Toufir est en possession de mon code d'appel. Utilisez le langage de bataille. Puis il salua, pivota et suivit le Fremen. Ses pas résonnèrent au long du couloir. Le duc et Hawat échangèrent un regard de compréhension. Ils sourirent.
Nous avons beaucoup à faire, sire, dit Alec. Et je te distrais de ta tâche, dit Leto.
J'ai ici les rapports concernant les bases avancées. Dois-je attendre une prochaine fois pour vous les communiquer?
Ce sera long?
Pas en résumé, sire. Parmi les Fremen, on dit que plus de 200 de ces bases avancées ont été construites sur Arrakis durant la période où la planète constituait une station expérimentale de botanique du désert. Toutes sont censées avoir été abandonnées, mais certains rapports indiquent qu'elles furent scellées auparavant.
Il y aurait du matériel à l'intérieur?
Oui, selon les rapports de Duncan.
Où se trouve-t-elle? Demanda Alec.
La réponse à cette question est invariablement « Liette le sait ».
Dieu le sait, murmura Leto.
Peut-être pas, sire, dit Hawat. Vous avez entendu Stilgar prononcer ce nom? N'aurait-il pu faire allusion à une personne réelle?
Servir deux maîtres, dit Alec. Cela évoque une citation religieuse.
Tu devrais la connaître, dit le duc.
Et Alec sourit.
L'arbitre du changement, reprit Leto. L'écologiste impérial, Kynes, ne pourrait-il connaître l'emplacement de ses bases?
Sire, fit remarquer Hawat. Ce Kynes est au service de l'empereur.
Et il est aussi très loin de l'empereur. Je veux ces bases. Elles doivent être pleines de matériaux que nous pouvons récupérer et utiliser pour la réparation de notre équipement.
Sire, ces bases sont légalement le fief de Sa Majesté.
Ici, le climat est assez rude pour détruire n'importe quoi, dit le duc. Nous pourrons toujours le rendre responsable, trouver ce Kynes et essayer au moins de savoir si ces bases existent vraiment.
Il pourrait être dangereux de les réquisitionner, dit Hawat. Duncan a clairement établi une chose, ces bases, ou ce qu'elles représentent, ont pour les Fremen une signification profonde. Nous pourrions nous les aliéner en nous en emparant.
Paul examina les visages autour de lui et vit avec quelle intensité chacun des hommes présents écoutait la moindre parole prononcée. Tous semblaient profondément troublés par l'attitude de son père.
« Écoutez-le, père, » dit Paul à voix basse. « Il dit vrai. »«
Sire, » reprit Hawat, « il se peut que ces bases nous donnent le matériel nécessaire pour réparer l'équipement qui nous a été laissé, mais elles peuvent aussi bien être hors de notre portée pour des raisons stratégiques. Il serait téméraire d'agir sans autre information. Ce Kynes détient l'autorité d'un arbitre de l'Impérium. Nous ne devons pas l'oublier. Et les Fremen lui obéissent.
Dans ce cas, agissez en douceur, dit le duc. Je désire seulement savoir si ces bases existent.
Comme vous voudrez, sire.
Hawat se rassit et baissa les yeux. Très bien. Nous savons ce qui nous attend. Du travail. Nous y avons été préparés. Nous en avons l'expérience. Nous savons quelles seront nos récompenses et les risques sont suffisamment clairs. Chacun de vous a ses attributions.
Le duc regarda Alec. Gurney, occupe-toi d'abord de la question des contrebandiers.
Je vais donc me porter au-devant des rebelles qui vivent au pays sec, psalmodia Alec.
Un de ces jours, dit le duc, je le surprendrai sans la moindre citation et ce sera comme s'il était tout nu.
Il y eut des rires autour de la table, mais Paul y décela l'effort. Son père se tourna vers Hawat.
Établis un autre poste de commandement pour les communications et les renseignements à cet étage, Toufir. Je te verrai quand ce sera prêt.
Hawat se leva et son regard fit le tour de la pièce comme s'il cherchait quelque soutien. Puis il se retourna et se dirigea vers le seuil. Tous les hommes se levèrent en hâte, dans un grand bruit de chaises, et le suivirent avec quelque confusion.
« La confusion, » songea Paul. « Cela s'achève dans la confusion. »
Ses yeux ne quittaient pas les dos des hommes qui s'éloignaient. Auparavant, les réunions s'étaient toujours terminées dans une atmosphère de décision, mais celle-ci semblait s'être effritée, usée par ses propres insuffisances. Et pour la première fois, Paul se permit de songer à la possibilité d'une défaite. Et cela ne venait pas de la peur qu'il aurait pu éprouver, ni des avertissements, comme celui de la révérende mère. Il affrontait simplement cette idée, ayant estimé de lui-même la situation. « Mon père est désespéré, » se dit-il. « Les choses ne tournent pas bien du tout pour nous. » Et Hawat? Il se souvenait soudain des réactions du vieux Mentat durant la conférence, de ses hésitations subtiles, de sa nervosité. Quelque chose troublait Hawat, profondément.
« Il serait mieux que tu restes ici pour cette nuit, mon fils, » dit le duc. « L'aube viendra bientôt de toute façon. Je vais en informer ta mère. »
Lentement, il se leva, le corps roide.
Pourquoi ne rassemblerais-tu pas quelques chaises pour t'y étendre et essayer de te reposer?
Je ne suis pas très fatigué, père.
Comme tu voudras.
Le duc croisa les mains dans son dos et se mit à marcher de long en large devant la table.
Un animal en cage, songea Paul.
Envisagez-vous de discuter de la possibilité d'une traîtrise avec Hawat? Demanda-t-il. Le duc s'arrêta devant lui et leva le visage vers les fenêtres obscures.
« Nous avons maintes fois évoqué cette possibilité. »
La vieille femme semblait sûre d'elle, et le message que mère...
« Des précautions ont été prises, » dit le duc.
Son regard fit le tour de la pièce, et Paul découvrit un éclat sauvage dans ses yeux.
« Reste ici. Je dois maintenant aller discuter des postes de commandement avec Toufir. » Il quitta la pièce en répondant d'un bref signe de tête au salut des gardes.
Paul n'avait pas bougé. Son regard n'avait pas quitté l'endroit où s'était tenu son père, et il lui semblait que cet endroit était vide depuis longtemps. Et il se souvenait de l'avertissement de la vieille femme.
« Quant à ton père, il n'y a rien à faire pour lui. »